très ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs du studio Kalangou. Il vient d'être 17h et c'est l'heure du journal en français que vous suivez sur les ondes de nos radios partenaires au micro de Surké Top Draman. À la une de ce journal, le sultan du Damagaram appelle les Nigériens à la cohésion et à l'unité au vu de la situation actuelle du Niger. C'était lors d'une cérémonie d'intronisation dans son palais. Les détails sont à suivre dans un instant. Les migrants candidats au retour volontaire dans leur pays sont coincés à Agadez. La fermeture des frontières y est pour quelque chose, selon les responsables de l'OIM à Agadez. La partie magazine de cette édition est consacrée à l'hypertension gestationnelle, un problème de santé qui touche la femme enceinte. Monsieur, dame, bonsoir et merci de nous recevoir. De la nuit d'hier à aujourd'hui, un groupe d'individus armés non identifiés circulant à bord de 9 motos a mené une attaque dans le village de Timferen, situé à 20 km à l'est de Bankilare. L'attaque a fait 8 morts parmi la population. En plus des pertes en vies humaines, les assaillants ont également emporté tous les animaux du village, selon un témoin du village contacté ce matin par notre correspondant. Au vu de la situation préoccupante que vit le Niger, le sultan du Damagaram, El Hadj Aboubakar Sanda Oumarou, a profité lors d'une cérémonie d'intronisation à son palais pour appeler la population à la cohésion et à l'unité du pays. Il a en outre appelé la population aux prières afin que la paix règne au Niger. Des propos recueillis par Mustapha Mamansani.
Chacun sait ce que c'est qu'une hiérarchie et nous voudrions que la population, car la population c'est une bénédiction de Dieu, que chacun continue à faire des prières pour le pays, même si l'on est seul. Après la prière, il faut faire des doigts et invocations et prier Allah pour que nous ayons la paix et la cohésion sociale. Que tout ce qui représente un danger pour notre pays, que Dieu nous en préserve. Aussi, nous vous demandons de continuer les invocations pour qu'il y ait un hivernage fécond, qu'il y ait abondamment de céréales, que Dieu nous accorde sa miséricorde. Pour ceux qui n'ont pas, que Dieu les donne, que Dieu nous préserve de toute situation de souffrance. Nous vous remercions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
L'Organisation internationale pour la migration, OIM, est confrontée à un grand nombre de difficultés dans la gestion des flux migratoires à Agadez. La raison tient à la fermeture des frontières terrestres et aériennes, ce qui a amené la suspension temporaire du programme de retour volontaire des migrants. Joseph Kik, chef adjoint au sous-bureau OIM Agadez, est au micro d'Anissé Karim.
Les migrants, sous notre assistance dans nos centres, ne peuvent pas bénéficier d'un retour volontaire dans leur pays d'origine. Au Niger, au total, on se retrouve avec presque 4800 migrants qui attendent le retour volontaire. Il y a un nombre d'autour de 2000 migrants qui ont été programmés pour partir dans les prochains mois. Toute cette planification est actuellement temporairement suspendue. Des transferts entre les différents centres de transit sont aussi suspendus parce que l'ensemble des centres, ils ont la capacité pleine ou même surcapacité. Titre d'exemple, dans la région d'Agadez, nous nous retrouvons avec une surcapacité actuellement de 126%, donc un quart au-delà de la capacité optimale. Et ça nous permettait justement pas de décongestionner le nombre de migrants là-bas, ceux qui ont aussi de soutien médical, psychosocial ou toute autre assistance spécifique. Nous espérons que les frontières s'ouvrent, un couloir humanitaire pourra aussi s'ouvrir au bénéfice des migrants qui sont bloqués.
Restons toujours à Agadez. Le gouverneur fait un plaidoyer pour la prise en charge des refoulés nigériens d'Algérie auprès des organisations en charge de la migration lors d'une rencontre avec celle-ci le vendredi dernier. Le général Ibra Boulama a demandé à ces organisations d'avoir des réponses appropriées à la crise migratoire dans la région. Il est au micro de Moussa Maman.
Ce que je voudrais demander aux uns et aux autres, qu'il nous faudrait vraiment avoir des réponses appropriées aux différents problèmes liés à la crise migratoire, surtout compte tenu de la nature dynamique de ce problème. La situation que nous avons aujourd'hui peut ne pas être la situation que nous allons connaître dans une semaine ou deux. Pour ce faire, je vais demander en tout cas beaucoup de réactivité pour les différentes structures, que ce soit dans la conduite des projets ou que ce soit dans le cadre même des problèmes liés directement au phénomène migratoire. En ce qui concerne les personnes refoulées, qui sont essentiellement des Nigériens, il faudrait que ces structures puissent aussi examiner comment prendre en compte. Il ne s'agit pas de s'occuper uniquement des étrangers qui sont sur le sol nigérien, il s'agira aussi de s'occuper des Nigériens qui ont été refoulés et qui ne savent pas à quel sens se vouer. Donc je pense que c'est un problème aussi qu'il ne faudrait pas perdre de vue et on va vous demander également de prendre ça en compte.
Partons à présent à Diffa, le département de Bosso compte 87 villages agricoles. Cette année, tous ces villages ont semé, seulement un problème est survenu, l'invasion des criquets, ce qui inquiète les agriculteurs. Chefou Hiro, directeur départemental de l'agriculture de Bosso, est au micro de Maïna Abdoulaye.
Cette décade-là, il y a eu un manque d'eau, presque pas eu de pluie. À part ça, il y a eu une montée vertigineuse des prix des produits. Et il y a aussi une invasion intense de criquets. Presque tous les villages ont semé. Le problème, c'est qu'il y a eu des périodes de sécheresse qui ont fait en sorte que la plupart de ces villages ont ressemé deux ou trois fois. Il y a 87 villages agricoles. À Toumour, vous avez 21 et à Bosso, 66. Par rapport à la situation phénologique, le stade le plus avancé, la floraison, et ça aussi, c'est un petit endroit. En majorité, c'est la levée avancée. Nous avons plus de 65% de levée avancée. Donc, tout est en bas. Ça fait extrêmement peur. C'est une situation vraiment exceptionnelle. La situation phytosanitaire est plus qu'alarmante parce qu'on a une invasion intense de criquets. Et les jeunes plants qu'on a sont envahis et ils sont détruits. Donc, on est en train d'essayer de circonscrire ça, mais ce n'est pas facile. On a un peu plus de 1000 hectares qui ont été touchés. Nous avons distribué plus de 950 litres de produits. On a traité à peu près 950 hectares.
Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le Niger après le coup d'État du 26 juillet a fait flamber le prix des denrées alimentaires comme le riz. Sur les marchés du pays cohabitent deux sortes de riz, le riz importé et le riz local. Le premier a subi une hausse, par contre le second est resté stable. Des réajustements sont opérés pour permettre à la population d'accéder facilement au riz local. Labo Iliassou, directeur administratif et financier de la société Riz du Niger Rini est au micro de Rahinatou Moussassan.
C'est juste un maintien. Donc nous, pour vraiment assurer que toutes les bourses soient accessibles à notre riz, on a jugé pour accompagner la population. C'est utile à ce que nos points de vente fassent des trucs, les mains en sachet d'un kilo pour vendre ça aux consommateurs. Et on a fait le lancement le dimanche. Donc le 33, on vend le kilo à 455 francs. Le kilo et le 32 à 385 francs le kilo. Et en plus de ça, on a mis un système de contrôle. Tout gérant de point de vente qui essaie d'augmenter un franc, il y a des sanctions qui sont prévues pour ça jusqu'à la résiliation du contrat.
Parlons santé. Le district sanitaire de Matamé est confronté depuis quelques jours à une épidémie de diphtérie qui gagne progressivement du terrain malgré l'effort des agents de santé qui tentent de contenir la maladie. 357 cas ont été enregistrés, dont 9 décès. Une riposte sera organisée le vendredi prochain avec l'appui du MSF de Magaria, Dr Bana Sunna Ali, médecin-chef du district sanitaire de Matamé, au micro de Habou Sarki Saleh.
Depuis que ça a commencé jusqu'à la date d'hier 28 août, nous avons enregistré au total 357 patients. Et on peut dire que parmi ces 357 patients, on a eu 253 qui sont sortis guéris. Et malheureusement, depuis que ça a commencé à aujourd'hui, nous avons enregistré 9 décès. C'est une épidémie, nous sommes une épidémie. Et c'est pour ça même, nous avons notre partenaire MSF qui est à Magaré, là, qui va bientôt intervenir avec, bien sûr, la collaboration de l'État. On va organiser une riposte. Donc, on va essayer de vacciner la zone de Kanché et de Amsoudou. En fait, c'est là-bas où on a beaucoup plus de cas. Donc, on va commencer avec eux. Et ça va bientôt commencer ce vendredi-là. La tranche d'âge, c'est généralement entre l'âge de 1 voire 14 ans qui sont beaucoup plus touchés.
Parlons société. De nos jours, beaucoup de femmes divorcées font face à des stigmatisations de la famille et parfois de la part de la société. Malama Karemalan Ibrahim, une femme qui a vécu cette situation, attire l'attention des femmes à s'autonomiser pour être indépendante. Elle est au micro de Maman Idrissa.
Quand une femme est divorcée et qu'elle rentre chez elle, ses parents se comportent mal envers elle. Seules ses sœurs sont préférées. Des fois, même ses sœurs ne la respectent pas. Dieu a fait en sorte qu'elle soit divorcée. Et face à cette situation, elle aura du mal à rester à la maison. Si elle sort, elle revient tard. Des fois, elle découche. Si tu es une femme divorcée, certaines personnes pensent que tu n'as aucune valeur. Mais non, une femme a une grande valeur. C'est pourquoi je lance un appel à l'endroit des femmes à ne pas rester les bras croisés, à ne pas prendre la prostitution comme un métier. Travaillez pour subvenir à vos besoins.
Chaque 26 août est célébrée la Journée mondiale de la langue Hausa. Cette année, à cette occasion, 100 femmes nigériennes ont été honorées à titre de Mata Jaruma Hausa pour avoir servi la langue Hausa dans leurs différentes activités. Hawa Ousmane a rencontré quelques-unes d'entre elles. Voici leur réaction.
Sincèrement, je suis très fière parce que je suis convaincue que la langue Hausa est une langue importante, très parlée dans le monde entier. D'ailleurs, c'est la 11e langue au niveau mondial. Partout au monde, tu vas rencontrer des gens qui comprennent et qui parlent la langue Hausa. C'est une occasion de rendre un hommage mérité à la langue Hausa. Nous sommes très touchés et nous souhaitons que cela continue. Je suis une artiste et dans la composition de mes chansons, je préfère toujours chanter en Hausa.
Décrire le sentiment qui m'anime ce matin est carrément impossible, car je ne me suis jamais sentie autant satisfaite qu'aujourd'hui. J'ai été honorée parmi tant d'autres femmes et mon seul souhait, c'est la paix pour notre pays. J'appelle les autres hausaphones à honorer cette langue, car elle nous appartient. Il nous convient donc de l'honorer plus que toute autre langue.
Et puis la partie magazine qui va parler d'hypertension gestationnelle chez la femme enceinte. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les facteurs de risque de la prééclampsie? Comment prévenir cette maladie? Docteur Hamissou Souleymane, gynécologue obstétricien, interrogé par Zara Boukar.
L'hypertension et grossesse, c'est l'élévation des chiffres tensionnels au-delà de 13,8 chez la femme enceinte.
Comment savoir si on fait de l'hypertension pendant la grossesse?
Des signes comme des maux de tête, où elle a des vertiges, où elle a des fluides visuels, où elle a des palpitations, où cette femme va te dire qu'elle a des épigastralies, c'est-à-dire des douleurs au niveau gastrique.
Quelles en sont les causes, docteur?
La première, c'est cette situation. La grossesse vient trouver la tension artérielle chez la femme. Ou cette tension artérielle qui survient chez la femme enceinte au-delà de la 20e semaine d'aménorrhée. Ces situations peuvent évoluer, dans, comme dans l'autre cas, vers ce que nous appelons la pré-éclampsie. C'est-à-dire, en plus de cette élévation des chiffres tensionnels, les urines de cette femme, il y a une élévation des taux de protéines.
Quels sont les facteurs de risque?
C'est la première part qui a sa première grossesse, que généralement ce sont ces femmes-là qui développent le plus de pré-éclampsie. Il y a la multiparité, la femme qui a eu beaucoup d'enfants et qui en fait continue à chercher à avoir. Ça favorise aussi la survenue de l'hypertension artérielle et grossesse. Il y a aussi les facteurs environnementaux, notre alimentation. Il y a des femmes qui vont te dire qu'elles ne sont même pas préparées tant qu'elles ne mettent pas de l'aromagie.
Alors, quelles sont les complications qu'il peut y avoir?
Si l'hypertension n'est pas très vite détectée, c'est d'abord la pré-éclampsie sévère. Il y a aussi la femme qui va te faire des crises convulsives. C'est ce qu'on appelle effectivement mon boringi chéri. Les gens vont commencer à parler de génie, de ceci. Non, ce n'est pas un génie, c'est juste en fait cette élévation des chiffres tensionnels qui atteint le cerveau et la femme va te faire des crises convulsives.
Comment prévenir l'hypertension gestationnelle?
Quand on est hypertendu, vraiment c'est d'être suivi par son cardiologue. Vraiment une situation qui doit être en fait prise en charge par plusieurs médecins. Et d'abord chercher même d'ailleurs en fait l'autorisation de votre médecin avant de contracter la grossesse. pour ce qui est de la seconde situation, pour la première part, c'est de retarder un peu en fait le moment de survenir de la première grossesse. Et pour ce qui est des facteurs environnementaux, de l'alimentation, c'est de la soigner, faire en sorte qu'on mange sain.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci et au revoir.